Dans le livre de Daniel, ce matin, nous lirons au chapitre 6, à partir du verset 2. Et c'est toute l'histoire de Daniel qui va être pris dans un complot, les enfants. Vous voyez, c'est une histoire très difficile à entendre, puisqu'il s'agit là de faire tomber quelqu'un dans l'erreur, de fabriquer des lois pour pouvoir accuser ensuite. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis à jamais !» Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis, ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction disant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, « Au roi, pardon, Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Daniel, évidemment, priait pour un autre Dieu, vous l'avez compris, et ne priait pas du tout pour le roi Darius. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Il ne voulait pas du tout que Daniel soit condamné. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, donc sans manger, rien du tout. il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel se mit à parler au roi. « Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse au lion et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés eux-mêmes dans la fosse au lion, eux, leurs enfants et leurs femmes. Terrible, hein ? Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. C'est absolument effroyable, si vous entendez bien les enfants. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui espère des signes et des prodiges, qui opère, des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Voilà toute l'histoire de Daniel que vous allez étudier aujourd'hui, les enfants. Et vous allez voir que toute cette histoire de fosse au lion, ça renvoie à d'autres histoires qui sont autour de la vie de Daniel. Et c'est bien sûr dans le culte qui va suivre pour vous que vous allez pouvoir découvrir toute cette histoire avec les grands empires, l'empire des Mèdes, l'empire des Perses, l'empire aussi, il y a d'autres empires qui suivent dans le livre de Daniel, et vous allez voir ça avec vos moniteurs qui vont maintenant pouvoir vous emmener après avoir chanté avec le cœur « Écoute Israël ». Et là, je crois que vous avez donc le chant avec vous, et vous allez pouvoir vous lever et chanter avec le cœur qui va pouvoir peut-être entrer. Oui, voilà. Et nous allons d'abord entendre l'orgue avant que nous puissions entendre chanter « Écoute Israël », qui est un cantique de la tradition juive et qui n'est autre que le chemin Israël. pour ce chant en français et en hébreu. Merci. Je vais maintenant inviter les enfants à quitter le temple pour aller vivre leur culte avec Aurélien et leur moniteur, bien sûr. Les catéchumènes, vous restez avec nous. Alors, en lisant ce texte de Daniel, on peut se demander, en tout cas, je me suis posé cette question, peut-on tirer des leçons de l'histoire ? Cette question semble un peu étrange quand on entend le récit miraculeux de Daniel. On a l'impression vraiment qu'on n'est pas du tout dans un récit historique. Et Daniel va sortir donc indemne d'une fosse remplie de lions, sans doute affamés, puisqu'après, les mêmes lions vont manger les autres qui arrivent ensuite. Ils avaient retenu leur faim jusqu'à manger les mauvais. Donc c'est très très manichéen cette histoire-là. Et évidemment, tout ça recèle beaucoup de raisons qui dépassent le simple aspect mythique, enfin le simple aspect comme ça miraculeux que nous voyons dans le texte. Il faut aller évidemment chercher plus loin. La question se pose en lisant le livre de Daniel, pardon, parce qu'il est très difficile à classer et à dater ce livre. Il pose des problèmes à tous les historiens de la Bible, parce qu'on ne sait pas très bien quand il a été écrit, et surtout avec des strates successives qui font que c'est très compliqué de savoir à quel moment il a réellement été écrit. Peut-être en plusieurs fois, et peut-être et sans doute avec plusieurs siècles de distance entre les différentes versions. Le chapitre 6 du livre de Daniel nous parle d'un roi, Darius le Mède, qui n'est répertorié dans aucune chronique connue de l'histoire d'Israël. Déjà, ça c'est un signe. Comme on spécifie qu'il est du peuple Mède, il ne peut pas être confondu avec Darius Ier, le grand roi des Perses. Les Perses ayant supplanté les Mèdes, on ne voit pas comment on pourrait confondre deux souverains de deux empires antagonistes. En plus, ce n'est pas la même époque, donc ça ne colle pas vraiment. Pour tout dire, le livre de Daniel brouille les rôles et les dates. Dans le même livre, Daniel est un juif exilé à Babylone, et un juif sous l'autorité des Mèdes. Déjà, il y a un problème de date. Le livre lui-même parle, dans une vision qui suit l'épisode que nous avons lu ce matin, de quatre empires. L'empire babylonien, symbolisé par un lion ailé. L'empire perse, qui est symbolisé par un ours qui se tient de côté, parce que, évidemment, l'empire perse a englober l'empire des Mèdes, et du coup il est composite puisqu'il a deux parties en son sein, l'empire grec symbolisé par le léopard à quatre têtes, et l'empire romain qui est symbolisé par une bête étrange avec 10 cornes et des jambes composées de fer et d'argile, ce qui montre la succession des dirigeants qui ont dirigé l'empire romain, et en même temps la fragilité, les pieds de fer et d'argile, la fragilité de l'Empire romain, puisque en son sein même, les dirigeants se sont tellement battus et se sont tellement assassinés les uns les autres que l'Empire lui-même était toujours mis à mal. Tous ces symboles racontent la façon dont l'auteur livre ce récit et comment il relie l'histoire des grands empires qui furent en contact avec Israël. Par exemple, l'Empire grec est symbolisé de cette façon par le léopard à quatre têtes, à cause de la vitesse avec laquelle Alexandre le Grand a conquis ses territoires. Et le léopard est une bête qui va très vite quand elle court. Et à cause des quatre successeurs qui se sont partagés l'Empire après sa mort. Tous ces symboles, aussi parlants soient-ils, sont rapprochés de façon tout à fait anachronique entre l'empire d'Alexandre le Grand et puis l'empire de Babylone. Il y a quand même tout un monde. Sans se soucier des datations ni de l'histoire chronologique, le livre de Daniel comprime le temps et nous emmène dans une histoire mythique qui permet de développer un message à des lecteurs qui sont sans doute eux-mêmes dans l'adversité face à un grand empire. Ainsi, le livre de Daniel a dû être rédigé dans le courant du IIe siècle, dans sa version la plus proche de la nôtre, IIe siècle avant Jésus-Christ, et parle donc de l'histoire de l'Empire grec. mais il fait référence à une histoire politique qui remonte plutôt au VIe siècle avant Jésus-Christ, en plaçant Daniel dans la situation d'un exilé à Babylone sous la royauté d'un Mède. Le nom même de Daniel est à rapprocher d'un nom de personnage ancien, comme celui de Job ou de Noé, ce type de personnage qu'on invente pour faire l'archétype d'un type d'homme. Et on trouve dans le livre d'Ézéchiel un certain Daniel, pas tout à fait Daniel, mais Daniel, qui est présenté comme un sage et comme un intercesseur. Et on a souvent rapproché ce personnage du prophète Daniel. On retrouve même ce Daniel dans une légende de la cité d'Ougarit, une des nombreuses cités-états très anciennes, au deuxième millénaire avant notre ère. Donc vous voyez, le nom, le prénom de Daniel date de d'une façon très ancienne, et il est donc véhiculé comme ça de siècle en siècle, d'âge en âge, pour montrer la figure d'un homme sage qui est à la fois prophète, qui est tellement sage qu'on va le mettre au plus haut niveau de l'État et à qui on va faire beaucoup, qu'on va donner beaucoup de confiance. Ainsi, Daniel obéit-il au schéma mythique de l'Israélite exilé chez son ennemi, mais qui va monter au sommet du royaume et qui se retrouve pourtant toujours prisonnier de ce royaume tout en servant le roi dont il est le prisonnier. C'est assez étrange. Il ressemble un peu à Moïse qui converse d'égal à égal avec Pharaon et qui va se retrouver dans la cour de Pharaon. Ou bien Joseph qui est une sorte de premier ministre quand ses frères le retrouvent en Égypte. Daniel est lui aussi un homme de cour, très bien installé dans le pays de son exil, sans doute à cause de sa sagesse. Daniel est tellement ami avec le roi Darius que le roi pleure en le voyant condamné à cause d'un complot. On a l'impression que Darius le Mède est un roi qui répond à un autre schéma mythique qui est celui de l'oppresseur salvateur. C'est aussi un mythe qui a parcouru toute l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, le roi qui délivre le peuple des griffes de Babylone, c'est le roi dont on parle à la fin du récit, Cyrus le Grand, Cyrus le roi des Perses, qui n'a pas la même politique de déportation que les rois babyloniens et qui va laisser les exilés rentrer dans leur pays alors que les Babyloniens les retenaient en exil. Il va donc être considéré dans le récit mythique de l'histoire d'Israël comme un sauveur qui, poussé par la main de Dieu, va délivrer le peuple juif à nouveau, lui qui est pourtant d'un autre peuple que le peuple juif. Il va être présenté comme celui qui envahit Babylone et qui, du coup, a une autre politique avec les Israélites et les délivre. L'histoire réelle ne s'est peut-être pas passée tout à fait d'une façon aussi simple, on s'en doute, mais il n'en reste pas moins que dans plusieurs livres prophétiques, comme celui, par exemple, d'Ésaïe, cette figure du Sauveur va apparaître en référence à Cyrus. Derrière le roi Darius le Mède apparaît donc l'ombre du roi Cyrus. Dans le récit, Darius le Mède est tellement acquis à la cause des Juifs exilés dans son royaume, en tout cas celle de Daniel, qu'il va jusqu'à faire une confession de foi. « Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste toujours. » On a vraiment l'impression qu'il s'est converti au judaïsme, ce roi. Le livre de Daniel est donc une énigme, car il est difficile de le situer dans le temps et son héros est en quelque sorte hors du temps, entre le deuxième millénaire et le deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui fait quand même une assez grande période. Nous avons là tous les ingrédients pour créer une histoire mythique. La question la plus pertinente en lisant le texte n'est pas, comme parfois comme les catéchumènes le croyaient quand nous avons abordé la question de la véracité des textes bibliques, quand nous en avons parlé ensemble en séance la fois dernière, le mois dernier, nous avons discuté ensemble, dans mon groupe en tout cas, de ce qu'était la véracité des textes bibliques. Est-ce que les textes disaient vrai ? Est-ce que c'était des textes à prendre vraiment au pied de la lettre ? Ou bien est-ce que c'était des contes pour amuser les gens de temps en temps, mais qui n'avaient aucune véracité et donc aucune importance ? Évidemment, la question ne se pose pas comme ça. Est-ce que ce texte est vrai ? N'est pas la bonne question, à mon avis. Est-ce que le texte est historique ? N'est pas non plus tout à fait une question pertinente pour ces textes. Mais plutôt, quelle relation le texte fait-il entre les différents mythes qu'il véhicule pour nous dire sa vérité ? C'est-à-dire que le texte utilise des mythes, des histoires anciennes qu'il mêle avec son histoire, son contexte à lui, pour nous raconter une vérité sur les hommes. Le livre de Daniel est un véritable tissu mythique qui utilise plusieurs événements historiques ou légendaires pour donner à penser l'identité d'un peuple. Les larmes du roi Darius le Mède, la véhémence de sa confession de foi, la noirceur des intentions des comploteurs politiques comparée à la fidélité de Daniel à son Dieu et à son appartenance religieuse ont de quoi nous émouvoir et nous faire prendre parti immédiatement pour Daniel et donc prendre parti aussi contre ses adversaires, quitte à les voir dévorés par les lions d'ailleurs, sans que cela n'émeuve plus personne. On a très peur pour Daniel, mais alors quand il s'agit des autres, là, avec leurs femmes, leurs enfants, dans la fosse aux lions, ça n'émeut plus personne. Il y a ici une dimension affective très forte que les anthropologues ont su discerner dans leurs études de mythes et qu'ils ont repéré comme une dimension constante de l'histoire mythique dont les peuples se dotent pour se construire. Car toutes les histoires nationales font cela et prennent empreinte des mythes à leur passé. Des faits historiques sont transformés en mythes pour pouvoir faire du présent, mais le faire évidemment avec une dimension affective et identitaire. Il n'est pas indifférent non plus que le récit de Daniel dans la fosse aux lions soulève un problème politique. On est ici dans un récit de cour, avec un roi. Daniel est aux prises avec une jalousie d'autres dignitaires qui lui disputent la place et vont s'en prendre à ce qu'il a de plus précieux, mais aussi de plus problématique dans le système où le roi est élevé au rang de Dieu. Ils vont s'en prendre à sa religion. Sans doute est-ce dans les idéologies politiques que l'on trouve le plus clairement l'utilisation de mythes, de récits historiques. Les faits historiques alors se condensent pour devenir des mythes utiles comme représentation ou comme schéma pour penser d'autres faits présents qui n'ont a priori rien à voir avec les premiers. C'est comme ça qu'en France, par exemple, on utilise Jeanne d'Arc à toutes les sauces parce qu'elle permet de faire de l'identité nationale. C'est ce que Claude Lévi-Strauss explique très bien dans son Anthropologie structurelle. « Rien ne ressemble plus, dit-il, à la pensée mythique que l'idéologie politique. Dans nos sociétés contemporaines, peut-être celle-ci a-t-elle seulement remplacé celle-là. Or, que fait l'historien quand il évoque la Révolution française ? Il prend cet exemple-là. Il se réfère à une suite d'événements passés dont les conséquences lointaines se font sans doute encore sentir à travers toute une série non réversible d'événements intermédiaires. Mais pour l'homme politique et pour ceux qui l'écoutent, la Révolution française est une réalité d'un autre ordre. Séquence d'événements passés, mais aussi schème doué d'une efficacité permanente permettant d'interpréter la structure sociale de la France actuelle. Les antagonismes qui s'y manifestent et d'entrevoir les linéaments de l'évolution future. Donc ils font en sorte de voir tout ça de la façon d'une projection dans le futur. Ainsi s'exprime Michelet, dit-il, penseur politique en même temps qu'historien. Ce jour-là, tout était possible, en parlant de la Révolution française, l'avenir fut présent, c'est-à-dire plus de temps, un éclair de l'éternité. Voilà comment le temps est revu et corrigé par tous les mythes historiques que les États prennent dans l'histoire. Certes, Lévi-Strauss parle d'un usage mythique de l'histoire à l'époque contemporaine. Nous cherchons à présent nos mythes dans l'histoire. Mais on voit que cet usage et que cette recherche ne concernent pas que les contemporains. Le cas de Daniel, repris 4 siècles après les événements censés s'être passés, montre bien que le schéma mythique fonctionne de même dans ce livre de la Bible et qu'il nous donne en tout cas de précieuses indications pour le lire. Alors, à travers tout ce tissu mythique, que cherche à dire son peuple ? Que cherche à dire ce peuple qui a écrit le livre de Daniel ? Veut-il tirer des leçons de l'histoire ? Et si oui, lesquelles ? Dans ce retournement de situation miraculeux d'un condamné à mort sauvé par la même foi qui l'avait fait condamner, L'histoire de Daniel nous parle du problème récurrent pour le royaume d'Israël à toutes les époques, la tolérance religieuse. Et pourquoi justement pour Israël ? Eh bien parce qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand la version grecque de ce livre est écrite, les Juifs de Judée, s'ils n'ont toujours pas d'autonomie politique, puisqu'ils sont aux prises avec la domination grecque, cette fois sont dans une relative liberté de culte, mais ils ne sont toujours pas libres de leur mouvement et de leur état. Et puis Antiochus IV va arriver et lui, il déclenche une révolte, la révolte des Maccabées, en voulant imposer à nouveau des coutumes hellénistiques aux Juifs et en les empêchant de suivre leur culte librement. Alors par la suite, après la révolte des Maccabées, les Juifs de Palestine connaîtront encore des époques de grande liberté de culte, mais ils auront toujours et très longtemps la présence sur leur sol d'envahisseurs grecs ou ensuite romains. On voit bien ici que la question de la tolérance d'une religion, d'une petite minorité comme le petit État d'Israël, le petit royaume d'Israël, est une vraie difficulté. Alors, est-ce de l'histoire de cette tolérance religieuse toujours retrouvée malgré les invasions successives que le livre de Daniel veut tirer une espérance ? Est-ce cette histoire de résilience répétée qui lui permet d'être aussi optimiste et de montrer un roi ennemi et païen se ranger aux côtés de l'exilé et se convertir au Dieu d'Israël ? Peut-être les lecteurs à qui s'adresse le livre sont-ils en mal d'espérance eux aussi à l'époque où on leur écrit ce texte, pour leur liberté et pour leur avenir ? Peut-être ont-ils besoin de croire que oui, on les laissera de nouveau être ce qu'ils veulent être, c'est-à-dire les enfants du Dieu d'Israël ? En tout cas, le livre de Daniel va créer un mythe du Sauveur qui aura une belle postérité et qui intéresse tout le Nouveau Testament, car c'est dans ce livre qu'il sera question d'une figure mythique extrêmement importante qu'on appelle le Fils de l'homme, appellation donnée à Jésus dans les évangiles et reprise jusque dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi, ce livre est fait de mythes et va en fabriquer lui aussi. Sans doute l'histoire ne peut se répéter et elle ne peut nous apprendre que ce qui s'est passé dans les temps qui nous ont précédés, mais pas nous dire ce qui se passera demain. Mais les récits mythiques qu'elle génère sont de nature à interroger notre affectivité et notre compréhension de nous-mêmes et la compréhension que nous avons de notre histoire collective. Ces mythes parfois créent du malheur. Mais ils ont aussi la force, comme dans le cas du livre de Daniel, de créer de l'espérance. « Qui dites-vous que je suis ?» demandera Jésus dans l'Évangile. C'est un peu la question des disciples qui le suivent et des chrétiens qui se sont retrouvés sans Jésus quand il a été crucifié et qui ont été obligés de se défendre, eux aussi jetés dans la fosse aux lions. Cette question du récit individuel ou collectif créé à partir de la relecture mythique de l'histoire a de quoi nous apprendre beaucoup. Que faisons-nous de nos histoires ? Non pas directement, non pas dans la réédition des événements qui se sont passés naguère, ce n'est pas comme cela qu'il faut lire sans doute les récits historiques pour en faire du présent. Mais il faut se questionner sur la façon dont on se sert du passé comme d'une langue pour écrire un récit idéologique pour le présent. Nous avons de nombreux exemples autour de nous qui nous montrent combien le passé est utilisé et pas toujours à des fins très louables. Sans doute certains disciples auraient répondu à la question de Jésus « Qui dites-vous que je suis ?»« Tu es le Fils de l'homme » en référence au sauveur apocalyptique dont parle le livre de Daniel. Il se serait servi de ce mythe-là. Ou alors d'autres auraient répondu « Tu es le Fils de Dieu » qui n'est pas du tout la même appellation, en référence à la figure du croyant dont parlent toutes les religions antiques. Historiquement, il y a plus de chances que Jésus soit en fait le fils de son père, tout simplement, mais cela n'est pas important. Ce qui compte, c'est la représentation qu'il fait de lui-même et celle qui a été faite de lui. Ainsi, si l'histoire ne se réitère jamais, car toutes les circonstances changent sans cesse, les mythes qui sont inventés pour raconter l'histoire et qui font comme s'ils empruntaient à l'histoire des faits avérés sont, eux, très instructifs et peuvent nous apprendre beaucoup sur les idéologies qui traversent notre époque. Si un pouvoir politique inquiète, c'est plus par les mythes qu'il utilise et qu'il recycle que par les circonstances dans lesquelles il semble développer son action. En ce moment, par exemple, nous entendons beaucoup parler des années 30, comme si notre pays se retrouvait dans la même situation que là où il en était dans les années 30, comme un paradigme pour comprendre les mutations politiques que nous traversons et la montée des courants populistes à travers l'Europe. Certains invoquent les circonstances, la crise économique et d'autres éléments factuels pour prédire une réédition de mouvements fascistes en Europe. Mais ce ne sont pas les événements qui sont à regarder pour les comparer avec le passé et en tirer les conséquences qui s'imposent, car alors nous ferions des anachronismes et de grosses erreurs. Ce sont plutôt les mythes qui sont créés à partir du passé et la façon dont on les utilise, dont on utilise l'histoire pour créer des mythes catalyseurs de forces émotionnelles propres à mener tout un peuple. Et là, il faut se méfier. De quoi nous servons-nous dans notre histoire pour parler de demain et pour regarder ce qui se passe aujourd'hui ? Ce que nous apprend le livre de Daniel avec l'histoire de la fosse aux lions, ce n'est pas qu'il faut croire au miracle, mais qu'il faut lire le miracle comme un langage pour dire les aspirations, les espoirs, les craintes de tout un peuple qui se regarde vivre. Et nous faisons de même aujourd'hui encore avec notre histoire, quand nous la relisons avec nos émotions. Sans doute ce Daniel n'a-t-il jamais existé. Sans doute Darius, le roi des Mèdes, n'a-t-il lui non plus jamais existé. Mais ces deux personnages ont une réalité plus forte et plus profonde que bien d'autres personnages historiques avérés dans les chroniques historiques des grands empires. Ils ont l'épaisseur du tissu mythique qui les constitue, l'épaisseur de l'émotion d'un peuple. Ces personnages portent en eux la lutte ancestrale d'un petit peuple pour exister avec sa foi et ses traditions au milieu de géants toujours prêts à les engloutir. Ils créent, ces deux personnages, un récit national. La force d'une telle existence, jusque-là, a fait ses preuves, puisque le petit peuple est aujourd'hui encore debout et vivant, alors que 100 fois on a prédit ou craint son anéantissement. Ainsi, peut-être l'histoire ne peut-elle nous apprendre que ce que les mythes qu'elle génère ont à nous apprendre, au bout du compte. Mais la foi, elle, celle que l'imagination suscite, celle qui croit qu'elle peut soulever les montagnes, celle qui croit qu'elle sauve le condamné dans la fosse aux lions, cette foi dans la force de la parole a beaucoup à nous apprendre. Négliger sa force serait une erreur. Elle peut faire le pire, bien sûr, et nous l'avons vu, mais aussi le meilleur. C'est sans doute ce que les enfants d'Israël avaient compris en confessant un Dieu qui crée en parlant, et que les chrétiens ont repris en confessant un Fils de Dieu qu'ils ont appelé le Verbe. Alors oui, les récits bibliques sont vrais, même s'ils ne sont pas tous historiques. Ils sont vrais comme une parole, comme le Verbe, qui nous raconte et qui nous crée. Amen.